Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission des Coups au cœur proposée par l'association Littera 05. Aujourd'hui, Les abeilles grises de l'écrivain ukrainien Andrei Kourkov. Ce roman a été publié début 2022 chez Liana Levy. Andrei Kourkov est un Ukrainien qui écrit en russe et qui a déjà publié une douzaine de romans, dont le célèbre Pingouin en 2000, ou plus récemment le concert posthume de Jimi Hendrix en 2015, ou en 2018 un autre roman, Vilnius, Paris, Londres. Dans ses romans, Kourkov a généralement un regard acéré, mais plutôt décalé sur la société post-soviétique. Il décrit avec beaucoup d'humour des situations bizarres, voire surréalistes, des situations de la vie quotidienne en Ukraine ou en Russie. Dans son dernier roman, Les abeilles grises, le ton est différent. C'est un roman qui a été écrit, je le précise, juste avant la guerre déclenchée en février dernier par l'invasion russe de l'Ukraine. Et l'histoire du roman se développe autour d'un personnage masculin, Sergueï Sergueïtch. Nous sommes en 2017, dans un village du Donbass, tout près de la République populaire autoproclamée de Donetsk. Le conflit armé entre l'armée ukrainienne et les séparatistes, appuyés par les Russes bien sûr, ce conflit armé y fait des ravages depuis 2014 déjà. Les tirs d'artillerie au-dessus des maisons, les dommages collatéraux, c'est le lot quotidien de ces habitants de ce que l'on appelle la zone grise, une zone tampon coincée entre les deux lignes de front. Notre Sergueï Sergueïtch est un homme bien ordinaire. À 42 ans, il se retrouve avec une pension d'invalidité pour cause de silicose, car il travaillait dans les mines où il était inspecteur de la sécurité. C'est un homme solitaire, sa femme et sa fille sont reparties en ville, et il dit lui-même que, j'ouvre les guillemets, il n'a personne à appeler. Un homme tranquille, Sergueï Sergueïtch, plutôt courageux, il n'a pas peur de la guerre, car alors que tous ont déserté le village pour aller grossir le camp des réfugiés ou le camp des séparatistes, il a choisi de rester avec son voisin ennemi d'enfance, Pashka Khmelenko. Ils sont, j'ouvre les guillemets, les deux derniers habitants de Mala Starogradivka, chacun plus accroché à sa maison exploitation qu'un chien à son os favori. Il n'est même pas armé, Sergueïtch. Bon, certes, il dort avec une hache sous son lit, on ne sait jamais, mais il n'y a pas chez lui de manifestation ou de sentiment d'agressivité. Même son voisin Pashka, il ne le perçoit que comme un petit ennemi. Voici comment il définit son voisin dans le livre. Même si le mot « ennemi » avait quelque chose de trop sérieux et pesant. Au village, on aurait dit qu'il était « ch'tit », le terme convenait mieux. Un petit ennemi, en somme, dont personne n'avait peur. Dans ce conflit armé du Donbass, dans cette guerre avant la guerre donc, Sergueï Sergueïtch ne prend pas ouvertement parti pour l'un ou l'autre camp. Lorsque son voisin Pashka lui demande, j'ouvre les guillemets, si les nôtres te réclament quelque chose, tu le feras ? Sergueïtch lui répond, quel nôtre ? Demanda Sergueï contrarié. Eh bien les nôtres, ceux de Donetsk, pourquoi tu fais l'idiot ? « Mes nôtres sont dans la grange, je n'en connais pas d'autres. » Toi non plus, tu ne fais pas trop partie des nôtres pour moi. Alors, les nôtres de Sergueï Sergueïtch qui sont dans la grange, ce sont des abeilles. Les abeilles de Sergueïtch. Et peut-être aussi fait partie des nôtres sa vieille voiture déglinguée à laquelle il est très attaché. Mais ce sont surtout les abeilles abritées dans la grange pendant la période d'hivernage, car notre personnage est apiculteur. Et en effet, seules ces abeilles le préoccupent, envers lesquelles il éprouve un sentiment de responsabilité. Un petit extrait. La guerre n'avait pas fait naître chez lui de peur pour sa vie. Elle avait fait naître chez lui une certaine incompréhension, ainsi qu'une brusque indifférence à tout ce qui l'entourait. C'était comme s'il avait perdu tout sentiment, hormis un seul, celui de sa responsabilité. Et encore, ce sentiment-là, capable de susciter de l'inquiétude à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il ne l'éprouvait qu'à l'égard de ses abeilles. Alors nous avons là, au début du récit tout du moins, un Sergueïtch spectateur des choses, un contemplatif. Il est comme étranger à ce qui l'entoure. Et sa maison même, sa maison est comme un refuge contre le monde extérieur imprévisible de la guerre. Une tanière, en quelque sorte. Voici encore quelques lignes extraites du roman. Un coup de canon retentit quelque part au loin, puis un autre, une trentaine de secondes plus tard, mais comme provenant d'un autre côté. Quoi ? Ils ne dorment pas, ces abrutis ? Où c'est qu'ils ont décidé de se réchauffer ? Bougonna Sergueïtch, mécontent. Il regagna l'obscurité de la maison, alluma une bougie. L'odeur agréable, chaude et mielée lui frappa les narines. Il perçut le discret tic-tac familier et apaisant du réveil matin posé sur l'étroit rebord de la fenêtre en bois. Eh oui, le miel, une référence obligée pour Sergueïtch, l'apiculteur. Dans le roman, les abeilles sont donc l'objet ultime de la préoccupation de Sergueïtch. Elles donnent, comme on dit, un sens à sa vie. Les abeilles sont source d'éventuelles inquiétudes, mais aussi, paradoxalement, source d'apaisement. En effet, pour Sergueïtch, les ruches sont une force de vie, car elles vibrent, les ruches, j'ouvre les guillemets, sans relâche d'une vie perpétuelle. Les ruches sont source de multiples bienfaits pour la santé. Et notre apiculteur, qui a, j'ouvre les guillemets, foi en la puissance abéine, notre apiculteur, croit en la vertu curative des abeilles. Il utilise un traitement contre le stress, une espèce de cure revitalisante contre les maux et les tracas de toutes sortes. Un petit extrait de nouveau. Mais à la fin du mois, quand les abeilles seraient sorties définitivement de l'hiver et que les ruches vibreraient d'une vie perpétuelle, il assemblerait celles-ci pour former une couchette, deux en largeur, trois en longueur, qu'il recouvrirait d'une mince paillasse. Il se vêtirait chaudement, les nuits sont encore fraîches fin mars, et dormirait dessus plusieurs nuits d'affilée. Ça lui réussissait mieux que n'importe quel remède, mieux que les vitamines. C'était comme se recharger d'une sorte d'électricité qui allume non pas les ampoules, mais le regard de l'homme, et l'allume si bien qu'il voit plus loin qu'à l'ordinaire. Alors cette cure proposée par Sergueïtch donne lieu dans le roman à des pages pleines de fantaisie. C'est ce que j'appelle l'épisode du gouverneur. épisode dont Sergueï Ilitch, très honoré par la visite du gouverneur de la région, garde à jamais le souvenir ému. Penser à ces abeilles l'apaisa et en quelque sorte le rapprocha du sommeil. Il se rappela le jour, cher à sa mémoire et à son cœur, où il avait reçu pour la première fois la visite du maître du Donbass et de presque tout le pays, son ancien gouverneur, un homme compétent sous tout rapport, compétent et inspirant confiance, comme les vieux bouliers qui servaient au calcul. Il était arrivé en jeep avec deux gardes du corps. La vie alors était tout autre, paisible. Il s'en fallait de 10 ans encore que n'éclata la guerre, sinon plus. Les voisins avaient déboulé de chez eux pour regarder avec jalousie et curiosité l'homme montagne franchir le portillon et serrer la main de Sergueï Ilitch dans son énorme pogne. L'un d'eux l'avait peut-être entendu demander alors « Sergueï Sergueïtch, c'est donc toi ? C'est chez toi qu'on peut faire la sieste sur des abeilles ? Tu as inventé ce truc-là tout seul ?»« Non, ce n'est pas moi, je l'ai découvert dans une revue d'apiculture, mais c'est moi qui ai fabriqué la couchette de mes mains », lui avait répondu fièrement l'apiculteur. « Eh bien, montre-nous ça !» avait dit le visiteur de sa voix de basse, avec un sourire grave mais amical. Sergueï Ilitch l'avait conduite au jardin, où les 6 ruches étaient rangées par 2, dos à dos. Posé dessus, un panneau de bois et un mince matelas garni de paille. « J'enlève mes chaussures ?» avait demandé le visiteur à son hôte. Celui-ci considéra les souliers de l'homme et resta médusé. À bout pointu, de forme très élégante, ils avaient des reflets nacrés, comme en ont parfois sous un soleil radieux les flaques d'eau éclaboussées d'essence, à cette différence que leur nacre avait plus de noblesse que des moirures de carburant. Elles brillaient, comme si l'air au-dessus eût changé de densité sous l'effet d'une forte chaleur et perdu ainsi sa parfaite transparence, ajoutant à la couleur des chaussures et à leur forme une sorte de dimension supplémentaire, une vibration inattendue. Non, pourquoi les ôter ? Répondit Sergueï Ilitch en secouant la tête. Quoi ? Elles te plaisent ? Dit le gouverneur avec un sourire, forçant par ses mots le propriétaire des lieux à détacher son regard de la paire de souliers. « Oui, bien sûr, je n'en ai jamais vu encore d'aussi belle, » avoua Sergueï Ilitch. « Tu choses du combien ?» s'enquit l'autre, tout à trac. « Du 42. » Le visiteur opina du chef et approcha les fesses de la ruche du milieu. Au-dessous se trouvait un escabeau de bois. Il grimpa dessus et s'installa soigneusement sur la fine paillasse. Il s'allongea sur le côté droit, étira ses jambes avec précaution, puis regarda Sergueï Ilitch à la manière d'un enfant, comme un écolier, un instituteur sévère. « C'est mieux sur le dos ou sur le ventre ? » demanda-t-il. « Ce serait mieux sur le dos. » La surface de contact avec les ruches sera plus grande. Bon, tu peux y aller. Je vais dormir un moment. On t'appellera, dit l'ex-gouverneur en jetant un coup d'œil à ses gardes du corps postés un peu à l'écart de l'installation apicole. L'un d'eux hocha la tête pour signifier qu'il avait entendu. Sergueï Ilitch rentra dans la maison. Il alluma le téléviseur. L'électricité fonctionnait à l'époque. Il tenta de se distraire, mais il était incapable de détacher ses pensées du visiteur important et de ses chaussures. Une crainte vint le tarauder. Pourvu que les pieds des ruches ne cèdent pas sous le poids du géant couché dessus. Vous l'avez compris, les abeilles ont un rôle essentiel dans le roman et elles sont toujours à l'origine des décisions du personnage de Sergeïtch. Elles sont le moteur de l'action. Et effectivement, c'est à cause de ces abeilles que Sergeïtch va, à un moment donné du récit, s'arracher, comme on dit, s'arracher à son village. Au début du roman, il met tous ses espoirs dans le retour du printemps. On peut lire ces lignes au début du roman. Mais si la guerre devait se prolonger, il abandonnerait le village aux soins de Pachka et emmènerait ses abeilles, les ciruches, là où il n'y avait pas de guerre. Là où les champs n'étaient pas creusés de trous d'obus, mais semés de fleurs sauvages ou de sarrasins. Où l'on pouvait marcher aisément et sans peur dans la forêt, dans les prés et sur les chemins de traverse. Un lieu habité où, même si les gens ne souriaient pas aux premiers venus, leur nombre et leur insouciance faisaient paraître la vie plus douce. La vie plus douce. Car au-dessus du village de Sergeïtch, il y a les oiseaux de feu, comme il appelle les tirs d'artillerie. Et les abeilles sont terrifiées. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'hivernage, Sergeïtch va, avec sa vieille bagnole, entreprendre un voyage vers l'ouest, là où la vie est plus douce. Il va quitter le Donbass en direction de Zaporijja pour installer ses abeilles dans un environnement de prés et de fleurs plus favorable à la mielaison. Et pour nous, lecteurs, le huis clos, oui, car on peut dire que cette première partie dans ce village de la zone grise, c'est une espèce de huis clos. Pour nous, le huis clos se transforme alors, dans une deuxième partie du roman, en road trip. Je crois qu'on peut parler de road trip parce qu'il y a la découverte de nouveaux paysages de l'Ukraine, paysages ruraux ou urbains, paysages industriels de cette zone minière. Il y a également dans ce voyage, dans ce road trip, des passages bucoliques, la description des champs de fleurs, l'évocation des arbres fruitiers, entre autres les célèbres, les fameux abricotiers de cette région. Il y aura également dans cette deuxième partie la rencontre, des rencontres, des nouveaux personnages, et notamment une rencontre avec une femme, Galia, vendeuse dans une épicerie, dans une petite ville, avec qui il y aura une petite idylle. Mais bien sûr, dans ce road trip, il y aura surtout des obstacles à surmonter, le passage de nombreux checkpoints avec les forces armées, et puis quelques mésaventures pour Sergeïtch. Il ira, notre apiculteur, jusqu'en Crimée, car il a des rêves, cet homme ordinaire, comme par exemple d'aller voir la mer. À un certain moment, au début du roman, dans la première partie, il confie à Petro, un jeune soldat ukrainien avec qui il a noué des liens et qui passe quelquefois le voir la nuit en catimini. Il lui confie « Quant à moi, je n'y suis jamais allée en Crimée. » C'est Sergeïtch qui parle. « Mais j'ai toujours eu envie de passer du temps à la mer, lézarder sur la plage, revenir bronzer. J'ai un habit là-bas. » Nous avons fait connaissance lors d'un congrès d'apiculture. Un tatar, Artem Mustafayev, apiculteur lui aussi. Il m'a invité à venir le voir, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Ce qui frappe chez Sergeïtch, c'est sa propension au rêve. Il rêve beaucoup, de façon récurrente. Peut-être est-ce une façon pour lui d'échapper à la réalité. Par exemple, un petit extrait de rêve de Sergeïtch. Nous sommes au village, dans la zone grise, dans la première partie du roman. Dehors, soudain, retentit une forte explosion. Sergeïtch sursauta, perdit le fil du rêve. Comme au cinéma, quand, pendant la projection, le film venait à casser. Sergeïtch n'ouvrit pas les yeux pour autant. « Bon, ça a pété quelque part, songea-t-il. Pas tellement près, c'est juste du gros calibre. Si c'était dans le coin, ça m'aurait jeté à bas du lit. » Et si l'obus était tombé sur la maison, il serait resté dans ce rêve où il se sentait d'une certaine manière plus au chaud, plus à son aise que dans la vie. Au début du roman, les rêves de Sergueï Sergueïtch sont le plus souvent empreints de douceur, de mélancolie, de nostalgie. Mais plus on avance dans le voyage, dans l'aventure, je dirais, dans l'aventure de Sergueïtch, et plus les rêves se teintent d'une couleur sombre. Car il y a comme une espèce de prise de conscience chez lui. Effectivement, au fur et à mesure de son voyage, on note une transformation chez lui. Son personnage se révèle de plus en plus enclin à s'ouvrir aux autres. Et se révèle alors ce besoin, un certain besoin de relations humaines, d'échanges, voire d'amitié, de solidarité. La preuve, même loin de son village et de son voisin ennemi, lorsqu'il pense à Pashka, lorsqu'il pense à son voisin ennemi, voici les mots que l'on trouve dans le roman. J'ouvre les guillemets. Il n'avait plus envie de penser à lui comme à un ennemi. Sergueï Sergueïtch est un homme qui, peut-être malgré lui, en butte à des événements et des situations qui le dépassent, va s'affirmer en tant qu'homme de bonne volonté. Il reste, tout au long du roman, un homme simple et tranquille, un anti-héros en quelque sorte, mais la vie va l'amener en quelque sorte à s'engager, d'une façon ou d'une autre. Alors même que c'est contraire à sa nature. Une sorte de héros du quotidien, lorsque, en Crimée, il va être confronté à la présence russe, à l'administration russe, aux forces militaires russes, lorsqu'il va être confronté au grand frère qui est là et qui surveille. Dans « Les abeilles grises » d'Andrei Kourkov, il y a en toile de fond le conflit armé. Mais ce qui est mis en avant, c'est un regard. Le regard que le personnage principal porte autour de lui. Une espèce d'étonnement. Il n'exprime pas de sentiments, de révolte, mais il éprouve de la compassion pour les jeunes soldats qui paient le prix du sang, et de la compassion pour, en général pour les victimes de l'oppression russe et de la force brute. Sergueï Sergueïtch reste mentalement dans une zone grise. Mais, au fond de lui, on a l'impression qu'il fait le choix de la vie, le choix de la douceur contre celui de la fureur. Alors, il y a plein de choses dans ce roman que je vous laisse découvrir si vous avez l'occasion de le lire. C'est un roman plein de nuances subtiles, plein de délicatesse, d'humour un peu triste, bien sûr, un humour un peu triste. C'est un roman plein d'humanité. Et puis, on a des révélations. Tenez, par exemple, il paraîtrait que Vladimir Poutine ne mentirait jamais. C'est ce qu'affirme en tout cas une vendeuse russe installée en Crimée qui soutient mordicus à Sergueïtch. Ouvrons les guillemets. Poutine ne me ment pas. Fermons les guillemets. Ah bon ? À la fin du livre, on se prend à se demander « Mais qu'en est-il de Sergueï Sergueïtch désormais ? » Alors que la guerre en Ukraine en est à son 150e jour, je crois. Je sais, Sergueï Sergueïtch, ce n'est qu'un personnage. Mais on se dit qu'il doit bien y en avoir d'autres des Sergueïtch dans cette zone grise, dans le Donbass, dans ce pays d'Ukraine. Il doit bien y en avoir d'autres des Sergueïtch perdus dans la guerre, une guerre lointaine et pourtant si près de nous. Merci pour votre écoute. Et je n'oublie pas de vous préciser, parce que c'est important, que Littera 05 est très heureuse d'accueillir Andrei Kourkov pour un échange autour de son dernier roman, Les abeilles grises. Et il nous parlera aussi très certainement de l'Ukraine en guerre et de l'Ukraine dans l'histoire. Rendez-vous donc le jeudi 11 août à 18h au Royal Agape.